L'actualité des Alpes du Sud, la montagne a une nouvelle fois montré qu'elle est un milieu sauvage.
Après le décès de trois alpinistes lundi à Villard-d'Arène, une nouvelle avalanche a emporté, heureusement sans gravité, un homme hier à Monessier-les-Bains. Alors que la préfecture des Hautes-Alpes déconseille toute sortie en haute montagne, l'ANENA, l'association d'études de la neige et des avalanches, rappelle que c'est une épreuve d'adaptation.
Il ne sera pas exclu de Les Républicains, il aura même l'investiture de son parti. C'est donc tranché pour Renaud Muselier à la veille des élections régionales.
Après le soutien de La République En Marche, sa famille politique lui avait tourné le dos. Des gages ont été apportés par le sortant de la région. Aucun accord avec la majorité présidentielle et une liste dont la colonne vertébrale sera Les Républicains. David Géant et Chantal Mehout seront les têtes de liste dans les Alpes du Sud.
Reportage Alpes 1 ce matin au plus près d'un convoi titanesque.
Le transformateur électrique d'Embrun, 160 tonnes montées à l'Argentière, l'ABC est transporté par rail dans la nuit de lundi à mardi. Une logistique impressionnante réglée au centimètre près.
Les thermes de Digne-les-Bains et de Gréoux-les-Bains pourront rouvrir.
Une réunion s'est tenue en début de semaine à l'Élysée entre les représentants du thermalisme et le gouvernement. Ce dernier a répondu favorablement à une ouverture anticipée dès le 19 mai. Le protocole sanitaire doit encore être défini, mais la jauge sera limitée à 50% de curistes.
Et à Manosque, eh bien vous aurez l'opéra au bas de chez vous.
Des séances d'opéra gratuites dès demain et pendant deux mois dans les quartiers prioritaires de Manosque. Les concerts se dérouleront tous les jeudis soirs au Ponche, aux Alizés et à la Colette. Météo.
Eh ben c'est maussade, un temps couvert avec des pluies faibles mais généralisées le matin sur les Hautes-Alpes, puis sous forme d'averses parfois soutenues qui disparaîtront normalement en début d'après-midi. Les températures 13 à 17 degrés en vallée pour les Alpes de Haute-Provence. Ben là aussi, si les nuages sont prédominants en début de matinée, ben ils vont s'effacer progressivement devant un soleil de plus en plus généreux. Les températures maxi s'échelonnent de 14 à 19 degrés. La montagne a une nouvelle fois montré ce lundi qu'elle est un milieu sauvage.
Trois alpinistes ont perdu la vie à Villard-d'Arène, déstabilisés par une avalanche. Hier, une nouvelle coulée de neige a eu lieu ce mardi matin, secteur du glacier du Cassé, à Monessier-les-Bains. L'alerte a été donnée vers 11h30. Un homme a été emporté, mais il s'en est sorti indemne. Il a été litreillé avec son guide sur l'hôpital de Briançon pour des contrôles. Cet hiver aura provoqué en France 123 accidents pour 28 personnes décédées. Les Hautes-Alpes ont connu en début de semaine l'accident le plus meurtrier de la saison. La préfecture des Hautes-Alpes rappelle que 4 personnes ont perdu la vie cet hiver dans les montagnes contre une l'an dernier. Aurore Valory.
L'ANENA, Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, constate que la fermeture des remontées mécaniques n'aura pas empêché un nombre d'accidents importants. Depuis 50 ans, l'ANENA note un ressenti d'explosion de la pratique montagne. Frédéric Jarry est chargé de mission.
Il y a un ressenti d'explosion de la montagne en hiver, que ce soit en ski de randonnée, en hors-piste. Par contre, on reste sur des moyennes, on va dire, pluriannuelles, qui sont autour de 20 accidents mortels, 30 décès, avec des grosses variations entre chaque année. C'est vrai qu'on a des années qui sont plus ou moins, on va dire, accidentogènes. Cette année, ça va être une année, dans la normalité. On va être autour de 30 décès dans l'année.
L'accident mortel de Villard-d'Arène a coûté la vie à un couple, mais aussi à un guide de haute montagne. Une enquête est ouverte pour déterminer les conditions de cette sortie. Mais une sortie en montagne est une épreuve d'adaptation et de prise de décision.
La prise de décision, elle est toujours difficile en fait en montagne enneigée. Là, on était sur des conditions, on va dire hivernales en plein printemps, donc on doit se mettre dans une position de vigilance comme on peut l'avoir à l'habitude en hiver. Ça demande quand même effectivement une grosse réflexion en amont d'une sortie et puis pendant la sortie.
Après cet accident, la préfecture des Hautes-Alpes a rappelé la règle d'or pour toute sortie en montagne, la préparation.
Comment on anticipe? On a déjà une préparation de la sortie la veille où on va consulter notamment le bulletin d'estimation de risque d'avalanche, la carte, les informations qu'on peut avoir par ailleurs, notamment sur Internet ou avec nos connaissances propres. Et de là, on va pouvoir préparer sa sortie avec des projets de sommet, de col, de couloir, avec des variantes. Donc, il faut toujours tabler sur le fait qu'on va devoir s'adapter sur le terrain. Et puis, une fois qu'on est sur le terrain avec ses compagnons, on va toujours revoir en fait sa copie et adapter potentiellement son projet par rapport aux conditions réelles.
Savoir renoncer, faire demi-tour, c'est aussi l'appel lancé par la représentante de l'État. Pour autant, une fois engagé, est-ce réalisable ?
C'est difficile en fait si on a effectivement un objectif très précis en tête, parce que effectivement on va avoir un comportement un peu balistique. Par contre, si on a plutôt un projet avec différentes idées d'itinéraires déjà en tête, là c'est beaucoup plus facile de renoncer à un objectif et plutôt se relancer sur quelque chose d'autre qui soit différent, mais tout aussi bien en montagne.
Notez que dans les Alpes de Haute-Provence, on ne compte aucun accident mortel en montagne cet hiver.
Merci Aurore, un dossier à retrouver sur alpe1.com.
Il disait vouloir donner le cap, et le cap est donné pour les régionales en PACA. Il n'y a pas et il n'y aura pas d'accord avec La République En Marche, affirme Renaud Muselier.
Et c'est donc le terme de 3 jours de remous au sein de la droite après que la majorité présidentielle ait retiré sa liste au profit de celle du président sortant de l'hémicycle marseillais. Le bureau exécutif de Les Républicains se réunissait ce mardi dans ses locaux rue de Vaugirard à Paris. L'hypothèse d'une exclusion de Renaud Muselier de sa famille politique a été immédiatement écartée. Par contre, restait l'investiture du parti, mise entre parenthèses depuis ce soutien de la REM. Christian Jacob attendait une clarification de la situation. Elle l'est aujourd'hui. Pas d'ambiguïté, déclarait Renaud Muselier. Son équipe régionale aura une colonne vertébrale Les Républicains, associée avec les alliés naturels. Dans la foulée, la Commission nationale d'investiture du parti a maintenu son soutien au candidat, confirmant que sur cette liste, il n'y aura aucun parlementaire La République En Marche ou membre du gouvernement. Exit donc Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Quant aux têtes de liste départementales, elles sont désignées. David Géant et Chantal Emeout, conseillers régionaux sortants, conduiront les listes respectivement dans les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Quant à Sophie Vaginet-Ricourt, la secrétaire départementale de Les Républicains dans les Alpes de Provence, la décision est prise. Elle ne briguera pas un nouveau mandat de conseillère départementale dans la vallée du Lubaye. On pourrait probablement la retrouver dans la liste de Renaud Muselier pour le 04. Cela pourrait être le cas également de Roger Didier pour les Hautes-Alpes. Le maire de Gap, vice-président du conseil régional, était un temps pressenti pour se présenter au départemental. Mais il l'annonçait tard hier soir. Il soutiendra finalement 4 binômes sur Gap. Catherine Assaut et Alexandre Mougin sur Gap 1. Marie-Yvonne Grenier et Daniel Galland sur Gap 2, binôme sortant. Tout comme Christian Hubot et Ginette Mostachy sur Gap 3. Lionel Parra, lui aussi sortant, sera présent sur Gap 4. Mais changement de partenaire politique pour lui. Exit Bénédicte Ferrotin, celle qui avait siégé avec Roger Didier puis Lionel Parra lors de son remplacement, semble avoir été évincée. Ce mardi, elle lançait sur les réseaux sociaux un appel à candidature pour un binôme masculin sous peine de ne pouvoir se présenter. Du côté de la gauche pour les départementales, y aura-t-il dissidence ? En tout cas, un groupe s'avance déjà. Ensemble pour les Hautes-Alpes, 4 binômes sont aussi présentés sur Gap. Madeleine Fauchâtre et Thierry Labat sur Gap 1, Aurélie Allemand et Sylvain Brunet sur Gap 2, Élie Cordier et Joël Millière sur Gap 3 et Pierre-Yves Lombard et Vanessa Picard sur Gap 4. 5 candidats étaient déjà connus en septembre dernier après l'annonce faite par Gap Autrement. Cette démarche veut représenter les valeurs de la gauche au service de l'emploi, du lien social, de l'écologie et de la proximité.
Gérald Darmanin sera en visite dans les Alpes d'Haute-Provence.
Le ministre de l'Intérieur devrait être sur le territoire basalpin jeudi et vendredi, même si le programme de cette visite présidentielle n'est pas encore officiellement établi. Le premier flic de France devrait inaugurer ce jeudi le nouveau commissariat de Digne-les-Bains, un bâtiment réalisé dans le cadre du plan France Relance et dans lequel les policiers sont installés depuis début mars.
Et on parle maintenant de ce convoi logistique titanesque réglé au centimètre près.
Une logistique unique pour le dernier transformateur du nouveau réseau électrique de la Haute-Durance, le transformateur du futur poste de Pralong à Embrun, sera mis en service en novembre prochain. Il vient compléter le réseau électrique Haute-Durance en pleine rénovation. Il n'a pu être monté à l'étranger comme cela se fait d'habitude. Il a donc vu le jour dans les Hautes-Alpes et c'est en pièces détachées, par rail et de nuit, qu'il a rejoint la Nice des Alpes. Christophe Laurenceau a suivi ce périple impressionnant, son reportage.
Depuis le début de ce chantier titanesque en 2015, RTE a rénové 200 km de lignes électriques dans la Haute-Durance en reconstruisant 100 km en aérien à l'écart des habitations et 100 km en souterrain. L'installation des deux premiers transformateurs à très haute tension à l'Argentière-l'ABC permet déjà d'alimenter le Grand Briançonnais. Ces derniers permettent en effet de récupérer l'électricité à 225 000 volts des lignes aériennes pour la transformer à 166 000 volts et la distribuer par des câbles souterrains sur le nord de la vallée. Ce même processus sera donc réitéré avec le poste de Pralong pour fournir l'Embrunet en énergie grâce à ce troisième et dernier transformateur de 8 mètres de long, 5 mètres de large et 160 tonnes. Un équipement d'envergure qui a été conçu à l'Argentière-l'ABC dans des conditions uniques en Europe. Jean-Philippe Bonnet, délégué RTE Méditerranée.
Très vite, il nous est apparu que, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on ne pouvait pas l'acheminer ici en Haute-Durance depuis les usines où ce type d'appareil est fabriqué. Donc, sa particularité de ce transformateur, c'est qu'il a été intégralement assemblé ici, dans les Hautes-Alpes, par l'entreprise EFASEC, qui est une entreprise portugaise. C'était quelque chose de prévu dès le départ, et c'est l'aboutissement d'une dizaine d'années de réflexion et d'études pour pouvoir concevoir, assembler et transporter ce transformateur.
Une fois assemblé, l'acheminement de ce transformateur au poste de Pralong s'est révélé être un véritable défi logistique. Le 27 avril dernier, le premier périple consistait déjà à le transporter à la gare de l'Argentière-l'ABC, car c'est bel et bien en train que le transformateur a rejoint Embrun dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Un convoi ferré de 9 heures qui a été anticipé au centimètre près par la société de transports spéciaux industriels qui est à la manette de ce travail de précision. Patrice Rollinger, directeur des opérations de STSI, filiale de SNCF Géodis.
Pour garantir à RTE la possibilité de faire le transport, on a réalisé des études préalables et on a utilisé la technique de la mesure laser, ce qui nous a permis de disposer d'une vue extrêmement précise de la voie ferrée et de son environnement. Et à partir de cette vue qui se compose d'un nuage de points, on a simulé informatiquement la circulation du convoi au point critique. Et ça nous a permis bien sûr de déterminer comment on allait gérer le convoi. Et ça nous a surtout permis de rassurer les acteurs sur la capacité à réussir le projet à 100% et sur le fait qu'on ne prenait pas de risques inconsidérés.
Avec l'objectif de terminer ce chantier de près de 8 ans en 2022-2023, RTE va par la suite poursuivre le démontage de toutes les lignes anciennes des bords du lac de Serre-Ponçon et jusqu'au col du Lautaret et du Galibier. 200 pylônes ont déjà été enlevés et le même nombre devrait l'être dans les 4 mois à venir pour dégager au maximum les paysages de la Haute-Durance.
Et notez que le budget global de ces travaux titanesques entièrement financés par RTE s'élève à 230 millions d'euros.
Les thermes de Digne-les-Bains et de Gréhes-les-Bains pourront rouvrir.
L'annonce a été faite par le CNET, le Conseil national des établissements thermaux. Un point d'interrogation subsistait en effet après les annonces de déconfinement faites par Emmanuel Macron. Ces structures pourraient-elles accueillir les curistes dès le 19 mai? Une réunion s'est tenue en début de semaine à l'Élysée entre les représentants du thermalisme et le gouvernement. Ce dernier a donc répondu favorablement à une ouverture anticipée des thermes français. Ce sont 113 établissements qui ouvriront en jauge réduite à 50% dès le 19. Ils avaient fermé depuis le 25 octobre dernier. Le protocole sanitaire doit encore être défini. On reste à Digne avec les quartiers du Rouvéré, de Haussier et de Saint-Véran qui sont privés d'eau potable. Les services communautaires sont mobilisés pour rétablir l'alimentation suite à cet incident sur un réservoir. Après avoir suspecté une casse de réseau et tenté de réalimenter le réservoir avec des camions-citernes, c'est la piste d'une fissure qui est privilégiée par le service des eaux de Provence-Alpes Agglomération. Des réparations sont attendues. Une distribution de bouteilles d'eau est pour le moment mise en place.
Direction Manosque maintenant avec l'opéra à la maison.
L'opéra en bas de chez soi, ou comme l'a nommé Durance Luberon Verdon Agglomération en partenariat avec la ville de Manosque et de nombreuses associations, l'opéra déconfiné. Des séances d'opéra donc gratuites qui s'invitent pendant 2 mois dans les quartiers prioritaires de Manosque. Les concerts se dérouleront tous les jeudis soirs au Ponche, aux Alizés et à la Colette. Des spectacles de 20 minutes gratuits que les gens pourront admirer depuis leur fenêtre ou au balcon. Michael Picon, coordinateur artistique et membre du collectif Calme, présente les objectifs de ce projet novateur.
L'objectif de ce projet, c'est d'aller lutter contre l'isolement, c'est de créer du lien. Et par la culture, qui est l'outil, c'est vraiment d'aller à la rencontre, démocratiser l'opéra, et en même temps créer du lien avec les habitants, montrer que l'opéra est accessible à tout le monde et amener par l'opéra des thématiques qui permettent d'échanger, de se rencontrer, de discuter. Et ça aussi grâce à l'implication des associations qui sont avec nous sur le terrain, qui connaissent la population et qui peuvent se servir de ce qu'on apporte de la, culturellement, pour ensuite continuer de créer du lien avec les habitants. Évidemment, il y a la culture, mais il y a aussi surtout la rencontre avec le public, la rencontre contre l'isolement, la rencontre pour recréer du lien après une période terrible où on a été en confinement, où on ne pouvait plus parler avec les gens, enfin, la rencontre avec l'autre a été très difficile. Donc c'est, voilà, c'est renouveler cette rencontre et par l'opéra, faire découvrir l'opéra et faire découvrir que l'opéra, c'est quelque chose qui permet la rencontre et l'échange, et que c'est quelque chose d'accessible.
Lors de chaque concert, les associations seront présentes pour accueillir les populations, les inviter à la discussion sur les thématiques abordées. Par l'opéra, les artistes traiteront de l'amour, des différences culturelles ou encore des violences conjugales, des thèmes forts et complexes qui pourront éveiller à la curiosité et favoriser la rencontre entre les publics et les acteurs du terrain. Caroline Paolasso, conseillère municipale à Manosque, vice-présidente déléguée à la politique de la ville, est impatiente d'avoir le retour du public et voit dans ce projet un très bon moyen d'aborder des thématiques sociales comme créer du lien.
Un des objectifs de la politique de la ville, c'est de lutter contre, bien sûr, l'isolement, les inégalités en matière d'accès, donc bien sûr à la culture, mais aussi à l'éducation. C'est une politique très transversale et nous avons eu cette opportunité. Nous avons découvert effectivement ce qui avait été fait sur Aix-en-Provence l'année dernière. On s'est dit que ça correspondait parfaitement à l'objectif du contrat de ville. Effectivement, on va pouvoir retravailler les thèmes avec les habitants. Les associations donc, vont pouvoir travailler par exemple sur les problèmes de couple au sein certains quartiers défavorisés. Donc ça correspond tout à fait à nos objectifs. On attend avec impatience la réaction des habitants.
Un dossier réalisé par Manon Mathieu. Rendez-vous pour la première soirée d'opéra demain, dès 17h45 au Ponge, 18h30 aux Alizier et 19h15 à la Colette.
Alpe 1 Sport. Alpe 1 Sport.
Avec le déconfinement qui donne des ailes au Cercheux Trail Salomon.
Cette épreuve qui aura lieu les 11 et 12 septembre prochains déroulera 5 parcours, 12, 26, 45, 60 km et le défi Kids. Vous l'avez peut-être noté pour les habitués, c'est une nouvelle épreuve qui voit le jour avec le 45 km, le Marathon des Cerces, ce sera son nom, avec 3200 mètres de dénivelé positif, de nuit en même temps que le 60, mais avec un choix de parcours pour les coureurs au kilomètre 33. Les inscriptions sont ouvertes, 2000 dossards sont à prendre pour cette 8e édition.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.